Alors ce matin, on va poursuivre notre étude des signes qui sont dans l'évangile de Jean, des signes qui attestent et qui démontrent que Jésus n'est pas un simple homme, mais qu'il est le Christ, le Fils de Dieu envoyé dans le monde pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est le but de l'évangile de Jean. Et ce matin, on va étudier le cinquième signe qui se trouve dans Jean 6. Jean 6, on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Le début du texte qu'on va lire souligne que le cinquième signe fait directement suite au quatrième. Quatrième, c'était la multiplication des pains dont j'ai parlé la dernière fois. Et immédiatement après, on a le récit du cinquième signe. Et on va voir qu'il y a un lien étroit qui relie ces deux signes ensemble. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, donc verset 14, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Alors on voit que suite au quatrième signe, le peuple qui était là, réagit de deux manières. D'abord, on voit que la foule commence à s'interroger sérieusement sur l'identité de l'homme qui vient de faire un miracle extraordinaire en multipliant le pain. Cet homme, se disent certains, est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. C'est ce qu'on lit au verset 14. Alors, qu'est-ce que signifie d'abord cette parole ? Il faut bien comprendre que la foule qui est là devant Jésus sont des Juifs, et ils connaissent les prophéties, ils connaissent la parole de Dieu. Et dans Deutéronome, on va se reporter à Deutéronome, chapitre 18, il y a une prophétie, une promesse que Dieu a faite à Israël au temps de Moïse. Cette promesse, c'est la venue d'un prophète qui serait comme Moïse. Et cette promesse, elle ne tombe pas par hasard. Je vais lire le texte, Deutéronome 18, versets 15 à 18. Cette promesse, elle est la réponse de Dieu à une demande du peuple, demande précise. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi, Deutéronome 18, 15, et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'Assemblée. Tu disais, « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel m'a dit, « Ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Voilà, ici, le peuple de Dieu est donc à Horeb, et ils ont une vision directe de Dieu. Et cette vision, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre, c'est une expérience traumatisante. Il y a du feu, il y a du tonnerre, la montagne tremblait, et il est dit que le peuple était effrayé. Et donc, suite à cette expérience, ils ont fait une demande à Dieu. « On veut que tu nous parles, mais pas directement, pas de cette façon. C'est trop difficile pour nous à supporter. » Et Dieu leur a dit, « Ce que vous avez demandé, eh bien, je vais plus me révéler de la même façon, mais je vais m'exprimer par un prophète qui va venir et qui sera de la même stature que Moïse, un prophète de Dieu, un homme à qui je communiquerai mes paroles et que vous devrez écouter. » Et il y a eu beaucoup de prophètes qui ont suivi Moïse, mais personne n'était à la hauteur de la promesse que Dieu avait faite. Et ici, le peuple, après que Jésus ait multiplié le pain, en tout cas certains se disent, lui, il doit être le prophète que Dieu a promis. C'est par lui que Dieu nous communique sa parole, qui se révèle. On ne peut pas voir Dieu en face, mais à travers Jésus, on comprend qui est Dieu. Des hommes commencent à comprendre, à travers les signes que Jésus opère, que vraiment c'est lui, l'envoyé de Dieu, celui que Dieu avait promis. Ça, c'est la première réaction du peuple après le miracle de la multiplication des pains. Mais il y en a une deuxième, vous aurez remarqué. Puisque Jésus est peut-être le prophète qui devait venir, alors le peuple se dit, enlevons-le et faisons de lui notre roi. Ça, c'est la deuxième réaction du peuple. On voit que Jésus n'a pas envie que Israël, que le peuple juif, les gens qui sont là, l'enlèvent et le fassent roi. Et je pense qu'il y a trois raisons à cela. D'abord, personne ne peut faire de Jésus un roi. Jésus ne reçoit pas sa royauté des hommes. Prochainement, on va aller voter. Le maire que vous allez élire reçoit son mandat de ceux qui l'ont élu. Mais Jésus n'est pas comme cela. Jésus ne reçoit pas sa royauté de nous. Il est roi. Et nous sommes appelés à reconnaître sa royauté. Mais ce n'est pas nous qui le faisons roi. D'ailleurs, on doit toujours faire attention à ce qu'on chante. Il y a un chant qui se trouve dans un des cantiques de J'aime l'Éternel que, pour ma part, je ne peux pas chanter. Parce que ce chant dit « Nous te couronnons ». Nous ne courons pas, nous ne pouvons pas couronner Jésus, c'est Jésus qui est roi. Nous reconnaissons sa royauté, mais Jésus ne peut pas recevoir sa royauté de nous. C'est une erreur. Donc pourquoi est-ce que Jésus fuit ? Ben, tout simplement parce qu'il ne veut pas être le roi du peuple par la volonté du peuple. Il est roi par la volonté de Dieu. Deuxième raison pour laquelle Jésus fuit, c'est qu'il ne veut pas être le type de roi que la foule désire. Dans Jean 6, verset 26, un peu plus loin, je l'ai déjà cité ce verset, la dernière fois, Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » En fait, le peuple voulait faire de Jésus son roi parce que Jésus, c'était celui qui pourvoyait à tous leurs besoins. C'était un roi self-service, en quelque sorte. Le roi du pain, on pourrait dire. Jésus multiplie le pain, il répond à nos besoins, il guérit les malades. Vous me cherchez, pas parce que vous avez compris qui je suis, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. On doit bien comprendre que ce qui doit nous pousser à aller vers Jésus, ce n'est pas simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Rav, ce qu'il nous donne. Mais c'est à cause de qui il est que nous le reconnaissons comme Seigneur dans nos vies. La troisième raison pour laquelle Jésus n'a pas voulu être roi, c'est qu'il n'est pas roi de la terre, mais des cieux, dit la Bible. Sa gloire, sa dignité, sa puissance dépassent de loin celle de tous les rois humains. Les hommes chercheront toujours un roi à leur image. Et un jour, la Bible dit que le monde aura à sa tête un roi que les hommes auront voulu, un sauveur, comme eux ils le pensent. La Bible l'appelle l'Antichrist, celui-là. Mais Jésus dépasse de loin. Il n'est pas roi comme les hommes le voudraient. Il siège dans les cieux, il a la droite de Dieu, et il règne sur toutes les puissances, les autorités, les dominations. Et ce que Jésus va faire ici par la suite, eh bien, est là pour démontrer quel type de roi il est. Quel type de roi. On va maintenant s'attacher donc au récit du miracle que Jésus a fait. Il n'y a pas qu'un miracle ici, on va le voir. Jésus donc se retire sur la montagne pour prier. Et d'après les textes parallèles qu'on trouve dans Matthieu et Marc, on voit que ce n'est pas simplement les disciples qui ont pris la décision de le quitter et de traverser le lac, mais dans Matthieu 14, 23 et Marc 6, 46, il est dit que c'est Jésus qui leur donne l'ordre de partir. Et c'est une précision qui est importante, parce que on voit que les disciples vont se trouver en difficulté après sur le lac, mais cette difficulté, elle a pour origine l'ordre de Jésus. C'est Jésus qui leur a dit de partir. Alors sans doute, quand ils sont partis, les conditions n'étaient pas mauvaises, mais il y a quand même déjà plusieurs choses qui nous sont dites sur la situation, l'état, on peut dire, dans lequel cette traversée s'est passée. Déjà, il était tard, c'était à la fin de la journée. La nuit allait venir, peut-être ils avaient le temps de passer avant qu'il fasse vraiment nuit, mais tout à coup, donc, la tempête s'est levée en cours de route. Un vent violent, contraire à la direction que prenaient les disciples, s'est levé, et on voit qu'ils essayent de lutter contre les éléments et qu'ils font du surplace presque. Alors pour ceux qui sont allés en Israël déjà, même pour ceux qui ne sont pas allés, faut savoir que le lac de Galilée se trouve à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, je ne sais pas si vous le saviez, et qu'il est dans une sorte de creux, il y a des montagnes autour, et quand le vent s'engouffre dans le lac, il y a des tempêtes terribles qui peuvent se produire. Et donc, on voit plusieurs fois dans les évangiles que des tempêtes se lèvent sur le lac de Galilée. C'est un phénomène connu là-bas en Israël. Voilà donc la situation. Les disciples sont envoyés de nuit par Jésus, confrontés à un vent violent qui leur est contraire, et on les voit en train de ramer de toute leur force pour essayer d'avancer. Alors je trouve que le scénario, enfin le tableau que l'Évangile nous dépeint ici, nous parle beaucoup de ce que nous pouvons vivre, de nos situations. En fait, comme Jésus, on est envoyé pour un but, pour une mission dans ce monde. Et puisque Jésus nous envoie, on devrait se dire, puisque Jésus nous envoie, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? Mais on se rend compte que le travail que Jésus nous, l'ordre que Jésus nous donne, ou le travail qu'il nous commande, ne se passe pas forcément comme on l'aurait espéré. Même si nous sommes envoyés par Jésus, que nous partons pour sur son ordre, nous ne sommes pas à l'abri des tempêtes et des vents contraires. Nous pouvons faire face à une forte opposition, que ce soit dans le monde et même parfois dans l'Église. Nous pouvons connaître des nuits agitées et tumultueuses, des moments où la lumière nous manque et où la force nous manque même. Mais ce qui est extraordinaire, on va le voir tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas perdus de vue par Jésus dans ces moments-là. Nous essayons par nos propres forces d'avancer, et combien de fois je soupire après le Seigneur, Et je lui dis, Seigneur, j'essaye de ramer, de faire avancer les choses, mais c'est difficile. On fait du surplace, on n'avance pas. Certainement, vous vous reconnaissez ici dans certaines situations. Un point intéressant dans le récit, on voit que les disciples rament, ils avancent tout doucement, mais très lentement. Ils se trouvent, il est dit au verset 19, à environ 5 kilomètres. 5 kilomètres. En fait, c'est, d'après Matthieu 14, verset 24, c'est la moitié du parcours. Ils sont au milieu du lac, au milieu. Et quand on est au milieu d'une difficulté, ben, on pourrait dire que c'est un point critique à ce moment-là. Parce qu'on a deux solutions. Quand on est au milieu et que c'est difficile, on se dit, ben, on peut faire demi-tour. Ce ne sera pas plus difficile de faire demi-tour que d'avancer. D'autant plus que le vent est de notre côté si on fait demi-tour. Tandis que si on persévère, on doit continuer à lutter. Et je pense que parfois, dans les difficultés, quand on arrive, quand on avance, on a aussi cette tentation de baisser les bras, d'arrêter. Il est toujours plus facile d'abandonner que de poursuivre, que de persévérer. Et le diable aime bien nous faire entendre, qu'on soit serviteur de Dieu ou simple chrétien, quand on est engagé dans un travail et qu'on veut servir le Seigneur, avancer avec lui, le diable peut nous dire, tu vois, c'est trop dur pour toi. Les autres peut-être y arriveront, mais pour toi c'est trop dur, c'est au-delà de tes forces. Je te conseille de retourner en arrière, de baisser les bras, de revenir à ton point de départ. Peut-être, quand on a été appelé par le Seigneur à quelque chose et que ça devient trop difficile, le diable peut nous dire « mais tu n'as pas compris l'ordre, en fait, ce n'est pas ce que Jésus voulait ». C'est toi qui as mal interprété. Tu ferais mieux d'abandonner. Et c'est quand on est à ce point-là critique qu'on voit que Jésus intervient. Et il va nous montrer, Jésus, qui il est dans de telles situations. Le peuple voulait faire Jésus roi, mais on va découvrir quel type de roi Jésus est vraiment à travers le miracle qu'il va faire. Alors j'ai dit que il y a plusieurs miracles en fait dans ce texte, il y en a trois. Il y en a un qui n'apparaît pas forcément de façon évidente, surtout dans l'évangile de Jean, mais dans les évangiles parallèles, on voit un miracle particulier. Marc nous dit que du point où il se trouve sur la montagne, Jésus vit que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Là, il y a déjà un premier miracle. Parce que Jésus, il fait nuit, il y a une tempête, il n'y a pas de lune pour voir sur le lac, il est à 5 kilomètres, même peut-être plus, et il voit les disciples. Il les voit. Il est sur la montagne en prière et il suit du regard les disciples de Jésus, ses disciples. Alors je trouve que c'est un encouragement extraordinaire pour nous. Nous sommes ici-bas sur la terre et nous pouvons être, comme je l'ai dit, dans des situations où nous avons l'impression que les choses sont difficiles. Nous ramons. Jésus est sur la montagne et il prie pour nous. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Jésus dans le ciel intercède pour nous, et pas seulement ça, mais il nous suit du regard. Il ne perd jamais de vue aucun d'entre nous sur terre. Nous ne le voyons pas, mais lui nous voit dans les ténèbres, dans la nuit, dans la tempête. Je trouve c'est extraordinaire. Il connaît nos efforts, même s'il porte peu de fruits, il sait que nous essayons d'avancer. Il sait par moments que l'opposition est difficile et que nous sommes parfois sur des chemins où c'est le point critique, on ne sait pas si on va continuer. On n'a plus de force. Mais lui est là. Et il vient vers nous. Il vient pour nous donner la capacité de finir la traversée. Pas de rester là, au milieu de la tempête, sans solution. Alors le premier miracle de Jésus atteste qu'il est le roi qui est dans le ciel, qui domine du regard tout ce qui se passe sur la terre. Et il y a un verset de la Bible qui dit que l'Éternel parcourt du regard la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est droit. Il est là, le Seigneur, pour soutenir tous ceux dont le cœur est droit. Le deuxième miracle, eh bien, c'est ce que Jésus va faire quand il va venir vers les disciples en marchant sur l'eau. Je ne sais pas comment il a fait, les eaux étaient agitées, le vent soufflait fort, mais on voit que ce n'est pas un problème pour Jésus. Jésus domine les éléments parfaitement, totalement. Et on doit toujours se souvenir de cela. La mer se soulève, les flots sont agités. C'est un peu la mer dans la Bible, c'est l'image du monde, des peuples. Nous sommes dans un monde qui est instable, agité. Et parfois, nous avons l'impression que les problèmes, les choses qui se passent dans ce monde vont nous engloutir. On aura du mal à y faire face. Mais Jésus marche sur l'eau. Il domine complètement les éléments. Dans Matthieu 8, d'ailleurs, c'est un autre épisode que les disciples ont vécu sur le lac. Il est dit que Jésus a ordonné au vent et à la tempête de se taire, carrément. Pourquoi est-ce que Jésus a cette capacité de dominer les éléments? Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est produite en 1930, qui est une anecdote véritable. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait une voiture Ford, qui était en panne au bord de la route. Vous connaissez cette histoire? Non. Alors, il était là, au bord de la route, il avait le capot ouvert, il inspecte le moteur, il ne voit pas ce qui ne va pas, il est dubitatif par rapport à cette panne qui est là, dans sa voiture, et tout d'un coup, une autre voiture s'arrête près de lui, et un monsieur en costard en descend, et il s'approche de lui, lui dit « Qu'est-ce qui se passe, monsieur ?» Ben, il dit « Je suis en panne, je n'arrive pas à trouver le problème. » Le nouveau venu promène ses doigts sur différentes pièces du moteur, vérifie un contact, resserre un écrou, puis il dit au conducteur « Essayez maintenant !» Aussitôt, la voiture démarre. Le conducteur dit à son bienfaiteur « Comment puis-je vous remercier, monsieur ? Quel est votre nom ?» À votre avis, c'est qui? Non, c'est Monsieur Ford. C'est Monsieur Ford, Henry Ford, c'est écrit sur sa carte. Eh bien, pourquoi Monsieur Ford a-t-il pu réparer la voiture? Ben, tout simplement parce qu'il en est le créateur. Il la connaît parfaitement. Et la Bible nous dit que dans Jean 1, puisque nous sommes dans l'évangile de Jean, que tout a été fait par Jésus, le ciel, la terre, l'univers. Il n'est pas étonnant que Jésus puisse marcher sur les éléments, les dominer. C'est lui qui est le maître de la création. La création lui obéit au doigt et à l'œil. Et ce matin, on a lu dans Hébreux 1 qu'il soutient toute chose, tout ce qui existe, par sa parole. Lorsque Jésus s'approche et marche sur l'eau, les disciples, dans un premier temps, ne sont pas rassurés, ils sont effrayés. Et dans Matthieu 14, verset 26, il est dit même qu'ils le prennent pour un fantôme. Donc ils croyaient quand même aux fantômes, les disciples. Mais c'est intéressant que Jésus se présente à eux d'une manière surnaturelle pour les aider dans un problème très difficile. Si Jésus avait l'habitude de marcher sur l'eau, les disciples n'auraient pas été effrayés. Mais Jésus n'agit pas de manière surnaturelle constamment, mais dans des situations extraordinaires, Jésus a des moyens qui dépassent l'entendement. On doit se rappeler de cela. Notre vie avec Jésus n'est pas forcément marquée par le miracle tous les jours. Jésus cheminait avec les disciples, il était un homme ordinaire. Et Jésus nous a donné aussi des moyens ordinaires, je dirais, pour marcher avec lui. On a la parole de Dieu, on a la prière, on a le Saint-Esprit, on a les frères et sœurs, la communion fraternelle. Mais Jésus peut aussi user de moyens extraordinaires pour des situations aussi extraordinaires. Attachons-nous à lui, attendons-nous à lui, même quand les choses sont difficiles. Jésus a toujours le pouvoir de régler même les choses difficiles, les situations les plus compliquées, parce qu'il est le maître de la création. C'est le roi, non seulement de la terre, mais du ciel et de la terre. C'est le deuxième miracle que Jésus a fait, et il y en a un troisième, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'est pas toujours perçu. C'est au verset 21, où il est dit que les disciples voulurent le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. C'est étonnant. Ils étaient au milieu du lac, et d'un coup il y a un hors-bord. Ils arrivent à l'endroit où ils devaient aller. C'est aussi quelque chose qui est porteur d'enseignement pour nous. En fait, ça nous montre que quand Jésus est dans notre barque, eh bien, l'épreuve perd de sa force et la difficulté n'en est plus une. Jésus dans la barque, les disciples n'ont plus besoin de ramer. La force humaine n'est plus nécessaire. C'est lui qui est la force pour avancer. Jésus dans la barque, les disciples peuvent être dans le repos. Ils n'ont pas besoin de s'épuiser jusqu'à la fin. Les circonstances sont les mêmes. La nuit est encore là, la tempête est encore là. Mais la différence, c'est que maintenant, c'est par la puissance de Jésus qu'ils avancent. Ce n'est pas par leurs propres efforts. C'est aussi un encouragement pour nous. Qui fait la difficulté de la vie chrétienne, c'est quand on ne vit pas dans le repos, c'est quand on essaye par nous-mêmes d'atteindre les buts que Dieu nous donne. Le Seigneur veut nous apprendre, par ce texte, à compter sur sa force, sur lui. C'est sa présence qui est décisive et qui change les choses. Ce n'est pas ce que nous investissons, ce que nous essayons de produire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il n'y a pas longtemps, d'un jeune garçon qui était avec sa mère et sa sœur dans l'eau. Ils ont fait naufrage. Vous avez entendu parler de ça? Ils étaient très loin, enfin à plusieurs kilomètres du bord. Et la seule solution que sa mère a envisagée, c'est de lui dire « Ben écoute, il faut que tu ailles chercher du secours. » C'était impossible. Certains commentateurs ont dit que pour faire ce qu'il a fait, il faut la force de deux marathons. Et le garçon, quand il est arrivé sur le bord, il a dit « C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Dieu. Je n'ai pas cessé de prier, de penser à des chants et à mes amis chrétiens tout en nageant. » La force vient de Dieu. Et ce petit garçon qui connaissait Dieu, eh bien, il l'a vécu. Comme les disciples, il a pu arriver jusqu'au bout, jusqu'au bord. dans l'épreuve dans laquelle parfois Dieu nous place, la leçon que le Seigneur veut nous apprendre, c'est au fond de lâcher prise, de le laisser faire, de nous abandonner à lui. On pense souvent que nous, on a les moyens et la force de vaincre le mal, d'avancer dans la vie, mais la force est en Christ, on le chante. Le Seigneur ne veut pas simplement être roi du monde, roi sur les circonstances, roi sur la tempête, il veut être roi dans nos propres cœurs. Et quand nous lui laissons la place, alors nous vivons des choses que nous ne pourrions pas vivre avec nos propres forces. Chacun d'entre nous va être confronté à des tempêtes et le monde dans lequel on vit va être de plus en plus agité. La Bible le dit, on le voit. Il y a des vents qui se lèvent. Et parfois on se dit, est-ce que j'arriverai au bout? Est-ce que la traversée sera possible? Le texte que nous avons lu nous montre que si Jésus est avec nous, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous passerons, nous pourrons traverser les choses, atteindre le rivage, et nous serons tous surpris d'un coup de nous retrouver de l'autre côté avec lui, alors que les choses paraissaient si difficiles sur l'instant. Conclusion. La foule voulait enlever Jésus et le faire roi, le roi du pain, comme je l'ai dit. Roi pour répondre à ses petits besoins, ses envies. Mais Jésus a démontré ici qu'il est un roi bien plus grand que le roi que la foule voulait faire. Il est le roi qui se tient dans la présence de Dieu, sur la montagne de Dieu, la Bible dit. Un roi qui intercède pour nous, qui nous suit du regard. Il ne laisse tomber aucun de ceux que le Père lui a donné, lui a confié. Si nous sommes à Christ, nous sommes assurés de son soutien, de son regard, de la force qu'il peut nous donner pour finir la traversée avec lui. Jésus est le roi de la création. Il est le maître de tous les éléments qui nous entourent. Il est plus fort que toutes les tempêtes qui vont venir. Il marche sur l'eau. Et il peut même ordonner au vent et à la mer de se calmer. Enfin, il est le roi sauveur, celui qui a la force et le pouvoir de nous tirer de toute situation désespérée qui pourrait nous dépasser. J'aime beaucoup ce verset 20, quand les disciples sont donc là. Le vent souffle, le lac est agité. Il rame, il voit Jésus arriver sur l'eau et ils ont peur parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, Jésus, n'aie pas peur. C'est moi qui suis derrière la difficulté que tu traverses. Les disciples, comme je l'ai dit, n'ont pas été sur le lac de leur propre initiative. Quand une épreuve arrive dans notre vie, elle est décidée par Jésus. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas les forces mauvaises qui, d'un coup, prennent le pouvoir. C'est Jésus qui décide. Jésus nous a précédés et nous précède dans notre vie. Il est plus fort que tout ce qui peut nous atteindre. Jésus dit, n'aie pas peur. Je viens vers toi, je ne te laisserai pas tout seul. J'ai la capacité de te secourir, de t'accompagner dans la traversée de ta propre vie, dans la barque dans laquelle tu te trouves, pour te conduire en sécurité jusqu'à la fin de l'autre côté. Je ne te perds pas de vue à aucun moment. Et quand l'épreuve sera finie, tu verras que j'étais là, que c'est moi qui t'ai porté. Je suis avec toi, je suis avec vous. Tous les jours, dit Jésus, c'est le dernier mot qu'il a dit à ses disciples, jusqu'à la fin du monde. Alors qu'on puisse ce dimanche partir avec cette parole que Jésus donne ici à ses disciples. C'est moi, n'ayez pas peur. Amen.